voix nue. Cette semaine, Marie-Laure Delorme rencontre François Sureau. Ce soir, l'écriture comme une consolation.
Bonjour François Sureau.
Bonjour Marie-Laure Delorme.
Pour cette quatrième partie d'À voix nue, après avoir parlé de votre enfance, de votre jeunesse, de la littérature côté lecture, on va parler de la littérature côté écriture. Lire peut-il empêcher d'écrire, François Sureau ?
Oui, d'abord quand j'écris, je ne lis pas, ou je lis très peu, ou je lis des choses qui sont très différentes de ce que j'écris. J'ai été malheureusement affligé d'un tempérament de zélig, comme dans le film de Woody Allen, vous savez. Et je suis incroyablement sensible au style littéraire. Et je lis par exemple, je sais pas moi, le premier manifeste du surréalisme, et hop, je me prends à prendre la voie définitive, autoritaire, vaguement ampoulée, semée de mots abstraits que, par ailleurs, j'adore, hein, d'André Breton. Je lis du Grac et tout d'un coup, ma prose devient brumeuse, celtique et rêveuse. Enfin, je veux dire, c'est très ennuyeux. Donc, je ne peux pas lire en écrivant. Donc, je ne lis que des choses totalement éloignées de moi.
Vous aimez d'ailleurs les pastiches.
J'aime énormément les pastiches parce que c'est une manière d'exorciser cette espèce de perméabilité au style des autres. Donc c'est très difficile de... c'est une banalité, mais je pense que c'est vrai pour tout le monde. C'est très très difficile de trouver sa voie, de suivre sa pente en la remontant, comme disait Gide. Et donc pour la trouver, personnellement, comme j'aime énormément lire et comme je suis très très sensible au style des écrivains, il faut que je fasse, d'une certaine manière, l'effort de ne pas lire. En revanche... là où c'est pas tout à fait vrai, c'est que si je fais exception de cette question du style, j'ai toujours été frappé par les correspondances, par, si vous voulez, quand je suis en train d'écrire, je lis des choses d'ailleurs, mais parfois extrêmement variées. Ça peut être des livres d'histoire, pas des livres de droit tout de même, mais des livres d'histoire, de la littérature, du roman policier, des témoignages, des documents, et d'une certaine manière, une multiplicité de choses que je n'avais pas nécessairement vues entrent en résonance, et à ce moment-là, nourrissent ce que je suis en train d'écrire. Mais en tout cas, lire en écrivant, pour moi, est incompatible avec l'acte de réfléchir sur ce que je lis. Donc, je laisse venir à moi les correspondances que la lecture me donne, mais quand j'écris, par exemple, je ne peux pas me consacrer sérieusement à la lecture de Pascal ou de Chateaubriand. Ça m'est à peu près impossible.
Vous nous disiez hier qu'il faut se demander ce qu'on cherche en lisant. Qu'est-ce que vous cherchez en écrivant ?
Je crois que je cherche deux ou trois choses. J'imagine que d'abord je cherche une consolation. C'est une chose qui n'est pas souvent dite. Très souvent, les écrivains se plaignent, vous savez, que c'est difficile d'écrire. C'est vrai que c'est un exercice psychiquement assez fatigant. C'est difficile d'écrire. Le grand spécialiste de ça, c'était Flaubert, qui dans sa correspondance pousse des hurlements de bête en disant comme c'est affreux. Et je crois que c'est Mauriac qui disait que il passait son temps à dire ça pour se faire pardonner d'avoir choisi le métier le plus consolateur et le plus délicieux du monde. Et je suis assez d'accord avec ça, pour se faire pardonner ça. Je crois qu'on cherche une consolation. Par consolation, je ne veux pas dire évasion. Je crois qu'on cherche la consolation d'une forme de recréation du monde qui rende le monde plus habitable qu'il ne l'est. Et en tout cas, je crois, si je veux donner une réponse sincère, que c'est profondément ce que j'y cherche. On disait au cours de notre discussion précédente qu'au fond, on écrivait parce qu'on avait aussi le sentiment que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'on écrit, tout d'un coup, des choses tombent en place. Elles ne tombent pas nécessairement en place de manière optimiste, mais elles tombent en place dans un rapport avec la vérité, qui vous permet de disposer plus facilement de la totalité des illusions qu'une vie d'homme dépose sur le chemin d'un homme.
Est-ce que il y a un fil directeur à votre œuvre ?
Je pense sincèrement, et sans coquetterie aucune, que si je savais le déterminer, j'aurais été incapable d'écrire ce que j'ai écrit. C'est précisément parce que je ne le vois pas que j'écris pour essayer de le trouver. Et donc c'est très très difficile de porter un jugement là-dessus. Il est sûr qu'il y a des thèmes, un fil directeur, je ne sais pas, mais il y a sûrement des thèmes qui sont des thèmes qui, au fond, ont été inspirés par une espèce de rapport d'aller-retour incessant de l'existence à la littérature. Vous savez, c'est transformer en conscience une expérience aussi large que possible. Par exemple, le thème de la difficulté du choix moral, le thème de la solitude de l'homme dans l'histoire, du rapport profond, enfin, je veux dire, existentiel de l'individu aux institutions sociales, du changement, de la possibilité de la conversion, de la possibilité d'écarter les apparences, de vous voyez, pour trouver. J'ai toujours eu cette conviction un peu platonicienne que, au fond, nous vivions dans une sorte de théâtre d'ombre, mais que derrière, il y avait les vrais personnages qui produisaient les ombres. Et donc, toute une part de ce que j'écris a sans doute à voir avec l'idée de retrouver ces vrais personnages. Ce sont des thèmes plutôt qu'un fil directeur.
Le chemin des morts est un petit livre qui en passe de devenir un classique. On retrouve tous ces thèmes dans le chemin des morts.
Oui, alors on les retrouve parce que ça va vous paraître une naïveté peut-être, mais je crois que la phrase de Gide sur ce n'est pas avec de bons sentiments qu'on fait de la bonne littérature a fait beaucoup de mal, au sens où elle a été très mal comprise. Je pense au contraire que, et en cela je suis plutôt du côté de Stevenson, que c'est avec de la morale qu'on fait de la littérature. De la morale dans le sens le plus profond du terme. C'est-à-dire le caractère indécidable de la vie, le rapport du bien et du mal. Quand vous regardez les grandes œuvres, au fond, les très grandes œuvres, elles ont toutes deux dimensions qui apparaissent à l'œil plus ou moins vite. C'est la dimension morale, dans le sens le plus profond du terme, et la dimension humoristique. Les grandes œuvres ont toujours des moments où on sourit et ont toujours des moments où l'homme est affronté à la question du bien. Et pour moi, le chemin des morts a été, j'ai essayé de m'approcher du plus près possible de la question du bien. Non pas pour dire, parce que c'est le récit plutôt le récit coagulé d'un certain nombre d'expériences que j'avais faites quand je m'occupais à mes débuts de droit des réfugiés à la commission des recours des réfugiés. Ça n'est pas un livre qui consiste à dire que, par exemple, j'aurais pris ou nous aurions pris une mauvaise décision qui a eu des conséquences dramatiques. C'est un livre qui est entièrement fondé sur la difficulté à prendre une décision, car encore maintenant, je ne vois pas la décision contraire que nous aurions pu prendre. Donc, sur la difficulté à faire ce qui est juste, sur la tension vers ce qui est juste. C'est absolument caricatural, mais je me souviens qu'un soir, une amie qui venait dîner chez nous à la maison nous avait dit, je suis avec un de mes vieux amis américains et j'aimerais bien vous le présenter, et puis en ce moment il est un peu triste, donc ça lui changera les idées. Alors il dit, mais bien sûr, viens avec ton ami américain. Alors la porte s'ouvre et elle nous présente son ami américain qui était William Styron. Et on a une conversation avec, on était 5 ou 6, on discute de tout avec Styron, et puis à un moment on parle du roman. Et Styron, que j'aime beaucoup, je trouve que, par exemple, les Contes des Marines sont vraiment un très très grand livre, enfin bon, en dehors de tout ce qu'on connaît. Styron dit, au fond, vous voyez, peut-être que ça nous a servi à nous autres Américains d'avoir un problème noir et de croire en la démocratie. Et je trouve que ces deux phrases sont absolument profondes. Elles ne veulent pas dire naturellement que le boulot de l'écrivain consiste, comme une sorte d'écrivain soviétique de l'époque du réalisme socialiste, à dire des choses qui seraient moralement bonnes ou socialement acceptables, mais le fait de s'affronter à l'injustice du monde pour essayer de trouver la voie juste, et pas nécessairement la voie politique ou sociale, mais la voie individuelle juste, est probablement le ressort d'une, en tout cas des œuvres qui m'intéressent.
L'homme que vous êtes a-t-il souvent, parfois, jamais mauvaise conscience ?
Je trouve qu'il y a de la facilité dans la mauvaise conscience, au sens où le remords est une seconde faute, quoi. Mauvaise conscience a quelque chose de faible. L'homme que je suis, comme j'imagine la plupart des hommes, a des remords. Des choses qui sont plus fortes que la mauvaise conscience, des choses qui vous atteignent, qui vous font vivre, qui font changer peut-être à certains moments votre comportement. Il y a dans la mauvaise conscience cette idée un peu étrange qu'on pourrait être quitte des fautes qu'on a commises par une sorte de voile triste posée sur la conscience elle-même. Ça n'est pas du tout ma manière de voir les choses.
Vous avez consacré un portrait à Ignace de Loyola et un récit à Charles de Foucault. Qu'est-ce qui vous a attiré chez ces deux hommes-là ?
Ce qui m'a attiré profondément, c'est l'idée du grand sérieux de l'existence. C'est cette idée mon intérêt pour les destinées dans lesquelles un homme a essayé de coïncider absolument à ce qui lui paraissait vrai et juste. C'est d'autant plus frappant dans ces deux cas que cette coïncidence est d'une certaine manière le résultat du hasard, c'est-à-dire de l'errance, de la découverte de l'Afrique du Nord, d'une certaine forme de malheur personnel et également du malheur de ses origines familiales pour Charles de Foucault et plus directement encore pour Ignace, le choc du boulet qui lui brise la jambe à la bataille de Pampelune. Et que c'est à partir de ce moment-là, par l'effet du hasard, que l'un et l'autre sont introduits dans cette idée que jusque-là, ils n'avaient pas mené une existence leur permettant de coïncider avec eux-mêmes. Et donc le choix délibéré, volontaire, d'une existence permettant de coïncider avec soi-même est quelque chose qui me fascine absolument. Ça me fascine d'autant plus que, quand on regarde ces deux destinées, on se rend compte que ce sont restés les mêmes avant ou après. Très souvent, les livres hagiographiques, surtout quand il s'agit de vie de saint, présentent des types affreux, débauchés, etc. Puis tout d'un coup, la grâce divine leur tombe sur la tête et ils deviennent entièrement différents. Non, ce qui est fascinant dans ces deux cas, comme ce qui est fascinant dans la vie d'ailleurs, c'est que ce sont absolument les mêmes avant et après. Simplement, le hasard, la providence, comme on voudra, leur a donné le moyen de coïncider avec eux-mêmes. De la même manière, j'ai été fasciné par les coïncidences négatives avec soi-même, et j'aurais pu écrire dessus de la même manière, les deux grands exemples de coïncidences négatives étant Rimbaud et sa décision de cesser d'écrire, ou Laurence, qui d'une certaine manière, Laurence Darby, qui au fond essaye de coïncider avec lui-même dans l'amour du royaume arabe, se rend compte, exactement comme Stendhal au moment de la campagne de Russie, du caractère profondément ambigu de l'activité politique et de ses résonances intimes, et finit par vouloir se punir en s'enfermant à Bovington comme simple soldat. C'est aussi une autre coïncidence, enfin je veux dire une recherche de cohérence, cette fois négative et non plus positive, qui me fascine exactement comme la première.
Le thème de la conversion semble un thème qui vous fascine.
Le thème de la conversion me fascine parce que j'ai toujours eu, au fond, un optimisme absolument indéracinable. C'est-à-dire que je pense que nous sommes recouverts par des couches absolument épaisses d'ambiguïté, de nullité, de malentendus, de tout ce qu'on veut, mais que nous ne sommes pas appelés à les conserver éternellement comme un vêtement troué, quoi. Voilà. Et qu'on peut travailler à s'en séparer, qu'on peut travailler à s'améliorer, et qu'au fond, notre destinée sur la Terre, c'est celle-là. C'est celle-là, une sorte de chemin vers le bien. Alors, ça peut s'arrêter au milieu, ça peut s'arrêter très vite, ça peut ne pas réussir. Mais il y en a un, en fait, ce qui dicte mon intérêt pour la conversion, c'est que, en fait, la conversion n'est pas, par exemple, de troquer le mal pour le bien, mais la conversion est quelque chose qui consiste à essayer de trouver le moyen de coïncider absolument avec soi-même, ce qui est une chose que la vie personnelle, la vie sociale, la vie politique, la vie institutionnelle conspirent en permanence à nous empêcher de faire. Et pour cette raison, ce chemin me fascine.
Un autre chemin, dans l'obéissance qui se déroule durant la Grande Guerre, un bourreau se rend de France en Belgique pour exécuter un troupier belge. C'est un livre sur l'absurdité des hommes, de la guerre, de l'obéissance.
Ah, c'est deux choses, c'est à la fois un livre sur l'absurdité, parce qu'en fait, cette histoire qui est une histoire qui est absolument vraie, d'ailleurs je l'ai découverte par hasard, En trouvant sur les quais le livre de Boucharnon, qui a été plus tard l'instructeur du procès de Laval, qui avait été le magistrat instructeur du procès de Matahari, qui était un magistrat de la cour d'appel de Paris, qui avait été mobilisé en 14-18, et qui, dans un livre de souvenirs, raconte les choses extraordinaires qu'il a vues pendant la guerre. Alors, il raconte Matahari, il raconte Bolo Pacha, l'affaire du bonnet rouge, les anarchistes, Almereda, qui était le père de Jean Vigo, le cinéaste, lui, de Zéro de Conduite. Il raconte tout ça, et puis à un moment, il dit, puis tout ça, c'est la petite bière. Almereda, le bonnet rouge, ou même Matahari, c'est de la petite bière, parce que la chose la plus étonnante que j'ai connue, c'est l'histoire que vous venez de raconter. Et je la regarde et je suis absolument saisi par cette espèce d'équipée folle où le gouvernement français, la peine de mort n'étant plus appliquée en Belgique de manière usuelle, le roi des Belges décide quand même de donner sa sanction à une condamnation à mort prononcée par une cour d'assises et demande aux Français de lui prêter une guillotine avec le bourreau de Paris. Et la guillotine et le bourreau de Paris traversent un champ de bataille qui fait 10 000 morts par jour pratiquement pour aller guillotiner une seule personne supplémentaire en Belgique. Il y a évidemment là-dedans un côté... c'est une épopée, donc il y a comment est-ce que le bourreau, les soldats de l'escorte, les officiers désignés pour faire ça, tous les fonctionnaires qui concourent à la réalisation de cet objectif absurde, comment est-ce qu'ils s'arrangent en conscience de cette obéissance déraisonnable? Mais en même temps, derrière, il y a une grande question qui est au fond la même que celle du chemin des morts, qui est-ce que cette obéissance est ou non déraisonnable? Était-il si déraisonnable pour le roi des Belges et la justice belge à l'époque de dire qu'un crime de droit commun devait être puni selon les normes du droit commun, qui à l'époque incorporait la peine de mort, et non pas par des cours martiales militaires collant simplement au mur en 5 minutes le criminel. Cette question est une question infiniment sérieuse et totalement indécidable. Donc il y a un côté... peut-être dans les personnages que j'essaie de décrire dans ce genre de situation, soit le chemin des morts, soit l'obéissance, comment dire, l'équipée, l'épopée, le chemin, l'aventure d'hommes à demi innocents dans un monde à demi coupable, puisque le monde institutionnel n'est pas totalement coupable et les hommes ne sont pas totalement innocents non plus. C'est une classification classique du roman sur l'innocence dans un monde coupable, le coupable dans un monde innocent, etc. Et au fond, je me suis aperçu assez tardivement que j'avais écrit très souvent essayé de décrire les aventures d'hommes à demi innocents dans un monde à demi coupable, ce qui est exactement l'impression que m'ont donné mes propres pérégrinations existentielles.
Elles ne vous ont pas mené à l'Académie française, François Sureau, et quand on vous écoute... curieusement, on se dit que vous seriez parfait à l'Académie française.
C'est la phrase la plus désagréable qu'on m'ait dite depuis très longtemps.
Pourquoi n'y êtes-vous pas? Et ça me permet de vous poser une question plus sérieuse, même si celle-là est sérieuse. Quel est votre rapport aux honneurs? Est-ce que ce rapport a évolué au cours de votre vie? Parce que nombre d'hommes recherchent les honneurs, mais comme vous le savez, nombre d'hommes disent que, évidemment, ça ne les intéresse pas.
Oui, je vais commencer par la fin. Je ne sais pas pourquoi je pense que j'en étais assez avide au début. D'abord parce que on ne sait jamais ce qu'on fait. L'inconvénient, c'est que, surtout, quand on fait de la littérature, on ne sait jamais. On ne sait jamais si ça vaut quelque chose, on ne sait jamais si ça va durer. De toute façon, ça ne durera pas. Je veux dire, ça ne durera pas après un millénaire. Hein, on ne va pas se raconter d'histoire. Bon. Mais enfin, on vit quand même dans un état de grande incertitude. Je pense qu'il y a dans la recherche des honneurs une compensation à cette incertitude, qui est vraiment l'incertitude propre à l'écrivain, qui est une chose assez classique. Et puis, il y avait chez moi un côté... je pense qu'il y avait un côté un peu filial, vous voyez, mon père était président de l'Académie de médecine, je pense qu'il y avait un côté où les honneurs me paraissaient normaux.
Voilà. Dont vous avez dit que c'était l'homme que vous aimiez le plus au monde.
Absolument. Et c'est un homme étrange parce que c'est un homme très très libre et qui en même temps, lui, aimait assez les honneurs. Donc au fond, je me suis rendu compte qu'on pouvait être les deux à la fois. Bon. Donc je pense qu'il y avait quelque chose qui me plaisait là-dedans. Plutôt par l'idée que, enfin, je veux dire, ça serait anormal de ne pas les avoir. Donc il était question de les avoir. Bon. De même que j'ai passé les concours, je suis allé au Conseil d'État parce que c'était normal et que si j'avais pas fait ça, j'aurais eu l'impression l'impression idiote, hein, naturellement. Mais une impression de déchoir ou de pas être à la hauteur, j'en sais rien. Et puis progressivement, au fil des années, ça a complètement disparu. Ça s'est évaporé et maintenant vraiment je mets plus haut que tout la liberté,
la liberté individuelle. Vous êtes sûr qu'on va pas vous retrouver à l'Académie française?
J'en suis absolument certain, oui. J'en suis certain et j'en suis certain parce que vraiment ça ne correspond pas du tout d'ailleurs au mépris des institutions, vous voyez. Ça correspond plutôt à des logiques différentes. C'est-à-dire, je suis pas sûr que j'ai jamais été fait pour ça, mais j'en ai vraiment aucune envie et je suis peut-être de moins en moins fait pour ça. Je vous donne un exemple qui permet d'illustrer mon propos. J'ai quand je me suis élevé contre la loi sur l'interdiction de manifester, j'ai à tort d'ailleurs, parce que c'était une formule un peu excessive et insultante, qualifié les parlementaires de nains de jardin, enfin les parlementaires qui avaient voté les dispositions liberticides.
On s'en souvient.
Voilà. J'ai suffisamment de respect pour les institutions pour penser que quand on est membre de l'Académie française, par exemple, on ne peut pas qualifier des parlementaires de nains de jardin. Je souhaite pouvoir continuer à les qualifier de nains de jardin, même à tort, si ça me chante. Ce que je déteste plus que tout, c'est les gens qui disent « Rentrez dans une institution, mais non, vous en faites pas, soyez membre de l'Académie française et vous pourrez continuer de parler comme vous voulez. » Eh bien, je ne crois pas. Je crois qu'il faut avoir le respect des institutions. Et c'est précisément la raison pour laquelle je souhaite demeurer en dehors.
Connaissez-vous le sujet de votre prochain livre ?
C'est une entreprise dans laquelle je me suis lancé il y a quelques années de ça, à l'occasion d'ailleurs. Le point de départ a probablement été les attentats islamistes. Au fond, je me suis demandé à ce moment-là, moi qui ai souvent l'impression d'aimer mon pays comme un étranger, vous voyez, je crois que chacun a son pays à lui, dans sa tête, ce n'est pas le pays de tout le monde. C'est la raison pour laquelle toutes les idées d'identité nationale me font proprement gerber, enfin vous voyez, au sens d'identité nationale politique, là les réunions de sous-préfets qui expliquent qu'il faut adorer Maurice Barrès et le camembert parce que c'est bien de chez nous, hors de ça. Je crois que chacun a sa France particulière, et la mienne, assez bizarrement, elle incorpore à la fois... Max Ernst et la rouerie, quoi. Enfin, chacun a sa France. Quand il y a eu les attentats islamistes, j'étais absolument frappé. Mais d'ailleurs, ça a duré depuis un certain temps dans cette réflexion française autour de l'idée de l'identité. J'étais absolument frappé par le fait que je me sentais, comme disait Aragon, en étrange pays dans mon pays lui-même. C'est-à-dire à la fois ceux qui voulaient le détruire et ceux qui voulaient le défendre présentaient de la France une vision qui était mais complètement étrangère à ce que j'avais aimé de la France, presque comme si j'avais été un étranger. Et je me suis dit, au fond, le moment est venu d'écrire ça. Donc j'ai commencé à écrire un livre où je suis le cours de la Seine, de la source jusqu'à l'embouchure, en parlant de tout ce que j'ai aimé le long du cours de la Seine, et qui va de Pascal à la mort de Lautréamont rue du Faubourg-Montmartre, en passant par Arsène Lupin ou l'incendie du bazar de la Charité. Au fur et à mesure, ce machin est devenu, non pas immaîtrisable, mais quand même assez volumineux. J'avais eu l'intention de faire un livre, et puis... au bout de quelques centaines et presque d'un millier de pages, je me suis rendu compte que comme j'étais au tiers du cours du fleuve, il fallait que je sépare ce livre en deux, en trois, enfin en fonction de ce qui me sera donné de faire. Et donc j'ai juste fini le premier volume qui va de Source-Seine, près de Dijon, jusqu'à Auteuil, et aux errances d'Apollinaire dans Auteuil.
On parle d'écriture. Est-ce que vous écrivez des lettres, François Sureau, des lettres avec crayon et papier, ou plus du tout ?
J'en écris dans les moments importants, qui ne sont pas si nombreux.
Les moments de deuil, on suppose.
Par exemple, oui, exactement. Les moments de deuil où quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps et qui vous manque. Donc à ce moment-là, j'écris comme autrefois. En revanche, j'ai quelques correspondants, si je puis dire, avec qui j'écris par SMS, sur WhatsApp par exemple. C'est une caractéristique presque physiologique chez moi, c'est parce que je parle comme j'écris et j'écris des WhatsApp comme... Enfin, vous voyez, il y a une continuité, quoi. Je n'emploie pas de langage particulier pour m'exprimer sur le fil. Comme j'ai deux ou trois correspondants qui ont exactement le même défaut ou le même tropisme que moi, en réalité, ça veut dire que ces machins électroniques m'ont donné l'occasion d'entretenir de véritables correspondances que je n'aurais certainement pas eu le courage, l'énergie nécessaire pour entretenir si je m'étais contenté d'écrire des lettres et d'attendre qu'on réponde aux lettres, si vous voulez. Oui, j'écris beaucoup sur le mode de la correspondance, mais sur ces ustensiles.
Vous-même, est-ce qu'il y a des lettres que vous avez reçues qui vous ont marqué durant votre enfance, votre adolescence, plus tard ?
Oui, certainement. Certainement, des lettres... c'est souvent des lettres très personnelles. Oui, des lettres personnelles. Et puis, je me souviens de certaines d'entre elles, certaines dont je peux parler en tout cas, sans avoir le sentiment d'être indiscret. Par exemple, la lettre que mon père m'a adressée le jour où je me suis marié. Une lettre récente qui m'a beaucoup frappé, c'est « J'écrivais des chroniques dans la Croix et j'ai une passion pour Babar, vous savez, Babar l'éléphant, celui de Jean de Brunhoff. Voilà. »
Babar qui est là devant moi pendant que je vous parle.
Exactement. Babar est pour moi un personnage considérable. Et donc j'écris une chronique dans la Croix sur Babar et je reçois une lettre absolument charmante d'une dame qui signe La Vieille Dame. et qui n'existe que depuis qu'elle est toute petite, une dame qui doit avoir 80-90 ans. Babar a été l'un des guides de sa vie, quelqu'un qui l'a aidé à se comporter de bonne manière. Une lettre magnifiquement écrite, et c'est la vieille dame qui me l'écrit, et donc je lui réponds, et puis évidemment on arrête de correspondre au bout d'un moment, et puis je cesse ma chronique à la Croix il y a quelques mois. Et dans ma dernière chronique, je dis, ben voilà, je suis content, j'ai rencontré plein de gens, mais ça fait longtemps que la vieille dame m'a pas écrit, et je me demande si elle va bien. Où êtes-vous, vieille dame? Que devenez-vous? Et j'ai reçu il y a quelques jours une lettre absolument bouleversante de la vieille dame qui me racontait sa vie, les difficultés de la vie quand on a cet âge-là et qu'on voit des choses disparaître ou changer autour de soi, et son espérance malgré tout. C'est une lettre absolument splendide. Elle m'a tellement ému que depuis quelques semaines que je l'ai reçue, je n'arrive pas à prendre la plume pour y répondre. Voilà. Il y a des occasions comme ça absolument extraordinaires.
Vous ne pratiquez pas l'autofiction, François Sureau, et j'ai lu nombre d'entretiens que vous avez donnés. Vous parlez peu de votre femme et pas du tout de vos enfants, sauf erreur de ma part. C'est quelque chose d'important pour vous, la préservation de l'intimité?
D'abord, il y a deux questions dans votre question. La première question, c'est l'autofiction. Je ne comprends pas ce que c'est. C'est-à-dire que je pense qu'un écrivain fait ses livres avec la matière de sa vie, que toute fiction comporte nécessairement une part d'autofiction, que Madame Bovary, c'est moi, que... Enfin, vous voyez, quoi. S'il s'agit simplement de travestir en roman une confession personnelle, ce n'est pas très intéressant. Mais c'est vraiment une question qui m'est totalement étrangère, vous voyez, elle m'est radicalement étrangère. Je ne sais pas de quoi on parle quand on parle de ça, sur le plan littéraire. C'est peu dire que je suis absolument hostile à l'indiscrétion des auteurs. D'abord parce que j'y vois... Nabokov explique ça très bien. J'y vois une espèce de facilité du narcissisme, une espèce de béquille, quelque chose de voilà qui me paraît assez insupportable. Et puis je trouve que, j'ai suffisamment d'occasion d'être égocentrique pour pas en rajouter, si vous voulez, et annexer la vie des autres à la mienne propre. Surtout pas lorsque la mienne propre a une dimension publique quand j'écris des livres. Je trouve ça absolument insoutenable en réalité. Insoutenable. Et c'est la raison pour laquelle je ne parle jamais dans mon livre des gens que j'aime, en tout cas, sauf, je peux parler de mes ascendants, de mon père, de mon grand-père, de ma mère, de manière voilée, comme j'essaie de le faire dans le livre qui va paraître. C'est aussi parce que je me sens, par rapport à eux, dans une position filiale qui m'autorise, d'une certaine manière, plus de liberté que ne m'autorise l'autre position. Je trouve que, introduire les autres de manière directe dans la fiction, les autres, ceux auxquels on tient, est à la fois vulgaire et inutile.
Merci François Sureau, à demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Marie-Laure Delorme avec François Sureau. À voix nue. Réalisation Marie Placet. Prise de son Stéphane Beaufis. Attaché de production Daphné Abgral. Coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr.